Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je ne sais pas si frère Tombo vous a donné la dernière nouvelle, frère Albert. Vous a donné. Pas encore. Bon, le frère est sorti de l'unité soins intensifs et il est dans une autre unité. Strux, c'est ça? C'est pour ceux qui ont un handicap lourd, hein, qui sont là. Les visites sont plus limitées là-bas, 2 heures par jour, dans un espace de 2 heures. Bon, on verra bien. Pour le moment, il est isolé parce qu'il a... Il est en isolation parce qu'il avait une infection aussi, je crois, suite à sa bronchite qu'il avait. Je ne sais pas. Mais bon, vous savez ce qu'il nous reste à faire, n'est-ce pas? Nous continuons à prier et nous regardons espoir. Père Céleste, nous te remercions ce soir pour nous avoir réunis encore. Tu as demandé à ce qu'il y ait 2 ou 3 pour que tu nous honores de ta présence. Il y en a plus que 2 ou 3. Et nous croyons que, comme tu ne mens pas, nous croyons que tu es bien là au milieu de nous. Aussi, c'est avec respect et tremblement que nous présentons en ce lieu, sachant que le Dieu de gloire est au milieu de nous. Nous baissons nos têtes devant ta grandeur et nous nous attendons à toi, te demandons à ce que tu nous ouvres les oreilles, que tu nous donnes des oreilles attentives et que tu nous donnes aussi une langue exercée pour celui qui parlera au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te le demandons ce soir, et nous t'adressons cette prière. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 5. Un verset court. Et que nous connaissons très bien. C'est Jésus qui parle. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen.
Amen.
Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir. Le titre, c'est le verset que nous venons de lire. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous n'allons pas parler de la perfection elle-même, mais nous allons parler de cette injonction du Seigneur qui nous demande d'être parfait, parce que notre Père céleste est parfait. Et si Dieu nous demande d'être parfait, il se charge lui-même du moyen pour que nous soyons parfaits. Et la perfection, ce n'est pas ce que vous pouvez penser, être sans péché, qu'on n'ait rien, n'est-ce pas, qu'on n'ait rien à nous reprocher, mais la perfection dont parle Dieu, bien sûr, quand quelqu'un est parfait, on n'a rien à lui reprocher, mais ce n'est pas ce qu'on peut penser. La perfection dans la Bible, c'est un objectif, c'est un but à atteindre, c'est un but bien précis. Ça va? Dieu a fixé un but, et ce but-là, Dieu veut, ne vous en faites pas, il l'atteindra certainement. Donc, ne vous regardez pas avec vos défauts, disant, Moi, finalement, comment je vais faire pour devenir parfait? Dieu s'en charge. Dans Philippiens, Paul nous dit bien que c'est un but. Philippiens 3. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, la récompense, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, le but, enfin le prix, pardon. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. J'ai persécuté l'Église de Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On oublie ça. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Amen. Pour remporter le prix, la récompense de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et quel est ce but, Père Paul? Romains chapitre 8. Le but de Dieu pour nous tous ici, celui-ci, au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Son dessein, c'est son objectif, c'est son plan, le plan qu'il a, qu'il veut réaliser. Donc, et il y a un but dans ce plan. Ce plan n'est pas fait comme ça au hasard, au petit bonheur, la chance, comme on peut dire. Mais il y a un but bien précis dans le plan de Dieu. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà le but. Être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. C'est ça le but de Dieu, que nous soyons à l'image de son Fils. Que nous soyons comme Jésus. On ne demande pas une ressemblance physique, mais c'est le caractère même de Jésus-Christ. Et pour en arriver là, c'est Dieu lui-même qui nous perfectionne. Un Pierre, chapitre 5. Un Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Dites amen à ça. C'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Qui vous perfectionnera, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Maintenant, si vous voyez d'où vous venez, quand vous lisez ça au verset 10, regardez un peu au verset 6, à partir du verset 6, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Si on doit être élevé, c'est qu'on est bien bas. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Vos soucis, vous en avez plein, c'est vrai. donnez ça à Dieu. L'apôtre nous dit, déchargez-vous-en. Ne portez pas vous-même ces soucis-là. Et surtout, ne comptez pas sur l'homme, comptez sur Dieu. Ne comptez pas sur l'assemblée. L'assemblée, ce n'est pas Dieu. Comptez sur l'homme. Comptez sur Dieu, pardon. Alors, déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. Car, quand vous le faites, lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce qu'il fait, le lion rugissant? Un lion est paresseux. Il est fort, mais il est paresseux. Souvent, il cherche toujours le moyen le plus facile, le moins difficile. Il va venir, il va observer le troupeau qui est devant lui, il va observer celui qui est faible. Le faiblard dans le troupeau. Quelqu'un qui est faible parce que soit les soucis l'ont affaibli, soit il s'est écorché quelque part et il a perdu, ça c'est physiquement, il a perdu beaucoup de sang. Maintenant, on peut mettre cela spirituellement. Vous avez été écorché par l'une ou l'autre parole, par l'une ou l'autre action, par l'une ou l'autre, je ne sais pas, par l'un ou l'autre événement. Et spirituellement, ça vous affaiblit. Et pendant que ça vous affaiblit, vous devenez une proie facile pour le diable. Et c'est là où le diable va venir vous dire plein de choses. Dans cette assemblée-là, on ne vous aime pas. Un tel ne t'aime pas. Une telle ne t'aime pas. Et il va commencer à vous charger de toutes ces choses et vous ne vous en sortirez plus. Oui, vous allez dire, là, on ne m'aime pas, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a à gauche ou de ce qu'il y a à droite. Ayez le regard fixé sur Jésus. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, sachez ceci, vous n'êtes pas le seul chrétien à souffrir. Ne dites pas que vous, les autres, ont eu une épreuve moindre que la mienne. Chacun, en tout cas chaque enfant de Dieu, est éprouvé et il a l'épreuve qui sied à son état. Chacun a une croix appropriée pour lui et nous devons l'apporter. Je n'ai pas apporté la croix de quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Vous n'avez pas apporté ma croix. Chacun a la sienne. Amen. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, ce dont vous vous plaignez là aujourd'hui, il y a des frères, il y a des sœurs en Christ dans le monde qui s'en plaignent aussi. Parfois même plus que ça. Et le perfectionnement en question, quand Jésus dit « Soyez donc parfaits, et comme votre Père céleste est parfait, soyez sûr qu'il y arrivera. Il y arrivera avec les siens, avec ceux qu'il aura appelés, c'est sûr qu'ils seront parfaits. Parce que c'est le but de Dieu. Si nous pouvions nous perfectionner nous-mêmes, alors on n'aurait pas eu besoin de lui. Mais nous avons besoin de lui pour en arriver à ce but-là. Et Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde, qui nous a élus avant la fondation du monde, s'est fixé comme but de faire de ses élus des hommes et des femmes ayant le caractère de Jésus-Christ. Et c'est entièrement une œuvre divine, du commencement à la fin. Philippiens chapitre 1. Il remercie d'abord Dieu. Verset 3. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Ce sont des gens formidables, les Philippiens. Et ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Maintenant, sachez ceci. Ce que vous, Philippiens, vous êtes devenus là, ce n'est pas vous. Il dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. » Dites « Amen » à ça. Il y a quelqu'un qui a commencé en eux cette bonne œuvre. C'est ainsi que les Philippiens étaient ce qu'ils étaient. Parce que quelqu'un avait commencé cette œuvre-là en eux. Et quand Dieu commence une œuvre, il ne la laisse jamais inachevée. En vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, préparez-vous. Quand le frère Branham dit « Seul l'amour parfait entrera là-bas », dites-vous bien que vous, cet amour parfait, Dieu vous fera atteindre cet état-là. Amen. Il n'y a pas de paquet d'amour parfait en haut pour qu'on vienne vous mettre. Hein. Mais vous passerez par des situations de telle manière que cet amour-là Amen. Naisse en vous. Et l'apôtre qui a un don selon, on le lira, Éphésiens 4, on le lira tout à l'heure, eh bien, l'apôtre, il dit qu'il est persuadé, il est convaincu que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, à ce frère-là, c'est vraiment un saint. Eh bien, dites-vous bien, ce n'est pas lui qui a commencé ça. Amen. C'est Dieu qui a fait de lui un saint. Amen. Il dit aux Corinthiens, vous êtes saints par vocation. Amen. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé, c'est pour cela que vous êtes saints. Oui. Amen. La montagne est sainte parce que le Dieu saint y est descendu. Amen. Amen. Toutes ces œuvres, les œuvres de Dieu, toutes ces œuvres sont parfaites. Pourquoi? Parce que lui-même est parfait. Dans Deutéronome 32, Moïse dit ceci. Donc, si vous n'êtes plus ce que vous étiez, comme les Philippiens, si vous avez changé, bien, vous avez maintenant pris part à l'Évangile, comme les Philippiens, sachez ceci, ce n'est pas vous, c'est l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, si c'est le cas en ce qui vous concerne, Paul entrerait ici et il verrait ça, il écrirait à la rue de Firlan, l'assemblée de Firlan, je rends grâce à Dieu. Amen. Il ne vous dira pas « Bravo, rue de Firlan ». Non, il dira « Je rends grâce à Dieu ». Amen. Dans Deutéronome 32. On peut commencer au verset 3, mais nous intéresse le 4. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il parle aux cieux, il parle à la terre. Maintenant, il dit ceci. Notre Dieu, il est, le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies, sans exception. Amen. Toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Maintenant, si les hommes sont corrompus, s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Par contre, Dieu, il est parfait. Et si une bonne œuvre a commencé en vous, celle-là ne vient pas de vous. Parce que par la chute, vous êtes pervertis dès le départ. Mais Dieu est celui qui redresse cela. C'est ça la rédemption. C'est vous ramener dans cette position de fils de Dieu. Faisons l'homme à notre image. C'était ça son but. Sa loi, sa parole. Souvent quand on dit sa loi, on a tendance à croire que c'est seulement de Genèse à Deutéronome. Non, c'est toute sa parole. Quand on dit sa loi, c'est toute sa parole. Sa loi, elle est parfaite. Psaume 19. Verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc, quand vous regardez les cieux, vous devez écouter ce que les cieux racontent. Si vous regardez, vous voyez ça banal, il y a quelque chose qui ne va pas. Les Chinois ont envoyé une sonde sur la Lune. La sonde est allée sur la face cachée de la Lune, parce que la Lune nous montre toujours la même face, jamais l'autre face. Les Chinois ont envoyé ça là-bas. Et cette sonde a atterri, elle a pris des images qu'elle a envoyées ici sur Terre. Vous savez, l'homme est intelligent. Dans Genèse 6, je crois, c'est 6, où lors de la construction de la tour de Babel, hein, je ne sais pas, c'est pas Genèse 6. Je crois que c'est 11 ans. Hein. Dans la construction de la tour de Babel, Dieu dit, je dois interrompre leur travail parce que leur but, c'était d'arriver jusqu'au ciel. Et Dieu dit, empêchons-les. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils vont finir par y arriver. Et Dieu va les en empêcher. Alors, cette sonde est arrivée, envoyée des images. Les gens intelligents ici, dans les universités, les astronomes, ceux qui ils sont dedans, ils vivent de ça, ils lisent leur écran avec un sandwich à la main, ils n'ont pas le temps d'aller manger, ils sont là, ils s'endorment parfois sur leur bureau et tout, ils ne font que ça. Alors, quand ils vous en parlent, c'est avec plein d'étincelles dans les yeux. Hein? Donc, c'est vous dire que pour eux, ils disent c'est merveilleux. Donc, il y a une dame qui était là, une astronome qui était là, qu'elle était émerveillée. Elle dit, ce sont des images formidables et tout ça. Alors, quand moi, j'ai écouté, je dis, ça, c'est la création de mon Dieu. Elle est là à louer les images, à louer la sonde. Moi, je loue le créateur de cette chose-là. Amen. Gloire à Dieu. Contemplez les cieux, racontent la gloire de Dieu. Effectivement, même la lune, qui semble être banale là, mais ça raconte la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Nous venons de voir, ses œuvres sont parfaites, n'est-ce pas? Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. Oh là là! La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Amen. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement, c'est que le jour raconte, c'est que la nuit raconte, c'est que les cieux racontent. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Oh, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Je suivais une fois une émission à la radio. C'est une émission qui passe souvent de 17h à 19h. Et ils sont là, nombreux, à faire des commentaires. Et avec le mauvais temps qu'il y a eu ici, ces gens-là, ils nous ont expliqué, en fait, qu'est-ce qui se passe. Il y a une dépression. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Moi non plus. Il y a une dépression qui est là, qui est coincée par des anticyclones. Moi, j'écoute. Et les anticyclones, c'est ce qui nous apporte le beau temps, hein, n'est-ce pas? Les anticyclones font monter l'air chaud, libèrent de l'air chaud. Les dépressions libèrent l'air froid. C'est pour ça que nous avons froid ces jours en plein printemps. Ces anticyclones-là bloquent cette dépression et la dépression ne part pas. C'est pour ça qu'il pleut tout le temps, il pleut tout le temps. Ce qui fait, le pauvre météorologiste qui est engagé à la radio ou à la télévision, il vous dit ce qui se passe. Lui, il n'en peut rien. Tout ce qu'il fait, il lit ce qui se passe. Il voit ça. C'est que l'anticyclone et la dépression lui racontent, il vient, il vous le traduit. Nous qui ne savons pas lire ça, lui, il le savait. Vous savez qu'à force d'annoncer le mauvais temps, les gens lui en veulent. Amen. Les gens lui en veulent. Gloire à Dieu. Et à la radio, il semblerait, si, j'espère ne pas dire des bêtises, si je n'ai pas oublié, il semblerait qu'il y ait un pays où, il y a un endroit où un météorologiste s'est carrément fait flinguer. Mais heureusement, il n'en est pas mort. Mais il n'y est pour rien, le pauvre. Hein? Il vous aide, au contraire, il vous demande de vous habiller chaudement parce qu'il y a une dépression. Hein? De vous habiller, de mettre un imperméable parce qu'il va pleuvoir. Oui. Bon. Et comment est-ce que ce météorologiste arrive à vous dire ça avec précision? Moi je, quand je les écoute, je suis admiratif. Hein. Ils sont là, ils vous disent, toute la matinée, il va faire sec, mais la pluie va arriver à tel endroit aux alentours de 14 heures. Et puis effectivement, aux alentours de 14 heures, la pluie arrive. Parfois, ils se trompent parce que ce sont des faux prophètes. Mais ils disent souvent ce qui est vrai. Hein? Mais pourquoi est-ce qu'ils en arrivent à dire ça, à prédire cela? Parce que la loi de Dieu est parfaite. C'est tellement parfait que on va vous dire les yeux fermés, si vous mettez de l'eau au feu, ça va finir par bouillir. C'est parce que la loi de Dieu est parfaite. Si c'était une loi hasardeuse, ça arriverait que ça boue, et puis après ça arriverait peut-être que ça ne boue pas. Non, quand vous mettez de l'eau au feu, vous êtes certain que ça va bouillir. Si vous n'êtes pas certain, alors cette incrédulité-là, je ne sais pas ce que c'est. Amen. Vous êtes certain que ça va bouillir. Hein? Vous voulez du thé chaud, vous mettez de l'eau au feu, parce que vous allez prendre, vous savez que votre thé sera chaud. Amen. Merci, petit. Merci, fiston. Amen. C'est oui. Oh, Dieu est merveilleux. Maintenant, quand Dieu a commencé une œuvre, Non, je l'ai dit, hein. Il ne la laisse jamais inachevée. Et n'oubliez pas, Abraham dit, mettre le sceau, c'est attester que l'œuvre est achevée. Donc, un homme scellé, une femme scellée, l'œuvre est achevée. L'homme, la femme, est scellée pour sa destination. Jérusalem, mon bien, fiston, que tu viens nous faire chanter là. J'espère que tu comprends ce que tu chantes là. Sinon, je veux bien te le traduire. Il achève toujours ce qu'il a commencé. Et quand il met le sceau, c'est qu'il est satisfait. Genèse, chapitre 1er. Verset 26. Il a fait les luminaires, il a les luminaires, il a séparé les eaux avec la terre, il a fait tout cela. Maintenant, nous arrivons au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est son but.
Amen.
Ça, c'est le but qu'il poursuit. Faisons l'homme, c'est pourquoi Dieu a fait l'homme, pour le faire à son image. Hein, l'homme était un petit Dieu. Faire partir une sonde jusqu'à la lune et la faire revenir avec des échantillons lunaires. Hein. Hier, quelqu'un m'a demandé à la maison, ma fille a demandé, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ah, je dis, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vont faire. On vous apporte une roche lunaire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Dites-moi un peu. Et ils ont dépensé des millions et des millions pour ça, hein, pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Mais ils mettent des millions là-dessus pour vous amener des roches lunaires. Amen. Bon, amenez aussi à la lune des roches terrestres. Amen. Ça leur fera du bien. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampe sur la terre. Vous avez bien lu?
Amen.
Qui rampe, qui domine sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, un serpent entre ici dans la salle. Que va-t-il se passer? Ah, il va y avoir une certaine panique. Et alors, à ce moment-là, on va croire que le pasteur est plus fort que tout le monde. Frère François, il y a un serpent. Le serpent est aussi dangereux pour le pasteur. Mais tout ça montre que nous ne sommes pas dans notre véritable position. C'est nous, c'est le serpent qui devrait nous craindre et nous obéir. Et pas l'inverse. Bon, continuons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, n'est-ce pas? On peut passer. On arrive au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. C'est la conclusion. Cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, frère Tombeau. Ce fut le sixième jour. Je voulais juste taquiner mon frère, n'est-ce pas? Vous savez, tel qu'on est là, il est quelle heure? Il est 20h moins 10. Nous sommes quel jour là? Nous sommes mercredi. Nous dirons, nous sommes... Eh bien non, pour les Juifs, nous sommes déjà jeudi. Nous sommes jeudi soir. Et demain, à 8h du matin, nous serons jeudi matin. Le soir vient avant le matin. Oui. Oh. Et ça complique parfois lorsqu'on doit compter les jours, ici dans la Bible. Chapitre 2. Ainsi furent achevés. Il dit, Dieu achève toujours. Amen. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Dieu a achevé la création et Dieu a trouvé cela très bon. Ne venez pas dire, non, cette montagne-là n'est pas à sa place, je vais l'en... Non, non, cette montagne est à sa place. L'arbre-là qui a été mis là est à sa place. N'allez pas l'enlever de là. Quand l'homme est venu à commencer à enlever la forêt de là où Dieu l'a placée, nous en voyons les conséquences. Hein, un climat, dérèglement climatique, dérèglement climatique. Dieu avait laissé un climat bien réglé. C'est l'homme dans sa perversion qui a déréglé ces choses-là. Ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et son œuvre est parfaite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Oh, il n'y a absolument rien à corriger dans la création. Tel que Dieu vous a fait, vous n'avez rien à corriger. N'allez surtout pas à une chirurgie esthétique. Bien sûr, le péché nous a déformés. Dieu, vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il n'y avait pas question de maigreur ni d'obésité. Hein. Ces choses-là sont venues après. Attendez seulement, dans le royaume, il n'y aura plus de maigreur ni d'obésité.
Amen.
Amen. Merci, ma sœur. Ça nous réconforte. Amen. On n'arrête pas de me dire maigris un peu, maigris. Mais moi, je veux bien maigrir. Gloire à Dieu. Ah, une œuvre scellée est une œuvre achevée. Dans sa prière, Jésus dit, dans Jean 17, Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils de Dieu est venu nous le faire connaître. N'est-ce pas ? Donc, il a été envoyé par Dieu, hein, et il voulait que nous connaissions le vrai Dieu. Pour connaître le vrai Dieu, ben, il faut connaître Jésus-Christ. Qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Ça fait autant de temps que je suis auprès de vous et vous ne m'avez toujours pas reconnu. Ouais. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est-à-dire, eh ben, tu as voulu qu'ils te connaissent. Eh ben, si on connaît Jésus-Christ, on connaît Dieu. On connaît Dieu. Dieu était en lui. La plénitude de la divinité habitait entièrement en lui. Et il dit que cette œuvre-là, de le faire connaître, il a achevé. Et quand il dit faire connaître, il ne parle pas seulement de ceux qui étaient avec lui. Il parle aussi de vous et de moi. Au verset 20, il dit, verset 20, il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Est-ce que vous croyez?
Amen.
« Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il avait aussi un but, c'est de racheter ceux qui croiraient, n'est-ce pas? Acquérir pour Dieu, racheter pour Dieu un peuple. En Apocalypse 5, il nous est dit, de toute langue, de toute tribu, de, hein, vous vous souvenez, en Apocalypse 5, il les a rachetés. Et ce groupe de personnes qu'il a rachetées, n'est-ce pas, est appelé, selon Paul dans les Épîtres, l'Église. L'Église du Dieu vivant, qui est son corps, n'est-ce pas? Et c'est le groupe des rachetés. Et il avait ce but-là, il dit ceci dans Matthieu 16. Verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, et vous, la rue de Firlan, qu'est-ce que vous dites? Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous qu'il est ?» Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'assemblée répond, il est le Christ, n'est-ce pas, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, un roc, c'est quelque chose de stable, qui ne s'use pas, dans le temps, qui reste longtemps dans le temps. C'est-à-dire, le roc, vous laissez ça quelque part à un certain endroit, vous revenez dans 1000 ans, ce roc est toujours là. La preuve, les scientifiques vous diront, quand ils vont le ramasser, ils vont vous dire, ce roc, ce rocher, date de 3 milliards d'années. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Si vous le laissez tel qu'il est là, ils vous le diront. Ils vous diront, allez demander aux géologues. Hein. Ils vont vous montrer des rocs, des rochers qui datent de milliards d'années. C'était là. Alors, il dit, sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est l'église de Jésus-Christ. Et cette église, comme c'est une œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ce n'est pas l'œuvre d'une assemblée, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, cette église qui est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Elle arrivera à coup sûr à la perfection. Si vous êtes membre de cette église, soyez sûr, cette parole, soyez parfait, comme votre Père céleste est parfait, s'accomplira en vous. L'église de Jésus-Christ, cette parole s'accomplit parfaitement pour elle. Elle sera parfaite. Hébreux 12. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, Jérusalem Moupia, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée, l'assemblée c'est l'église, ecclésia, mot grec originel c'est ecclésia, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 25. On peut commencer au verset 22, on va le tout lire. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas en certaines choses, mais en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Écoutez ceci. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Vous parlez de perfection. C'est là que l'Église doit arriver. Et comment est-ce qu'il en arrive là, à cette perfection de l'Église ? C'est simple. Enfin, c'est simple pour lui, pas pour moi. Pour Dieu, c'est simple. Quoique ça lui a coûté tant de souffrances pour nous racheter. Mais comment est-ce qu'il en arrive là ? Il a établi des ministères dans ce but-là. Les ministères que Dieu a établis, c'est dans ce but-là, pour faire parvenir l'Église à la perfection. Éphésiens chapitre 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alors maintenant qu'il est monté au-dessus de tous les cieux, et il a donné les uns comme apôtres, dites amen à ça, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà où Dieu veut que nous arrivions. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, la perfection nous donne une idée de maturité spirituelle. Alors, jusqu'à ce que nous soyons arrivés là, nous avons donc intérêt, si nous voulons arriver à cette perfection, de toute façon, si vous êtes prédestinés à devenir semblable à Christ, vous aimerez écouter ces gens-là.
Amen.
Lesquels? Les uns comme apôtres, oui. Les autres comme prophètes, oui. Les autres comme pasteurs, évangélistes et tout ça. Vous prendrez plaisir à les écouter. Pourquoi? Parce que vous êtes équipés de ça. Il ne s'agit pas de sentiments envers quelqu'un, mais il s'agit de reconnaître le don de Dieu. Des gens, des envoyés de Dieu, que Dieu a envoyés avec sa parole qui vous perfectionne. C'est pourquoi l'apôtre dit, n'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas. Et vous aimerez les écouter. Nous allons terminer par là. Jean dit ceci. C'est un de ceux-là. Jean, c'est aussi un prophète. Il était aussi pasteur, l'ancien. Bien. Jean. 1 Jean 4. Comme on termine, je vais lire un peu plus. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Le frère a prêché sur ça il y a quelques jours. Mais éprouvez les esprits pour savoir qu'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu.
Amen.
Lui, ça a fait passer, on le relit aujourd'hui. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, ces antéchrists-là. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, vous ne les avez pas vaincus parce que vous êtes fort, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ces antéchrists-là, eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, Jean dit, nous écoute. Jean est un de ceux qui ont été appelés là dans Éphésiens 4. Ceux qui sont de Dieu écoutent Jean. Ils écoutent Pierre. Ils écoutent Paul. Ils écoutent Jacques. Ils écoutent Tite. Ils écoutent l'épître de Paul. Ils écoutent Jérémie. Ils écoutent Ézéchiel. Ils écoutent Moïse, ils écoutent tous ces prophètes-là, et tous ces prophètes-là ont parlé de Jésus-Christ. Donc, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ceux qui ne sont pas de Dieu, ils n'aimeront pas écouter le bon évangile. Ce sont ceux-là à qui on apporte un autre Jésus et ils y vont fort. Moi, je ne veux pas d'autre Jésus. Je veux de ce Jésus-là. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et vous en faites pas, vous serez parfait. Parce que c'est le même Jean qui dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Amen. Couvre-moi en tête. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quand Dieu voudra, on parlera de cette perfection. Mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Hein? Mais vous serez parfait comme Dieu veut que vous soyez parfait. Le problème n'est pas de venir lancer des théories ici, de théologie, non. Le problème est que soyez tranquille. Il a dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Souvent, par humilité, nous disons, frère, je ne suis pas parfait, frère. Ah, ok. Mais ne t'inquiète pas, frère, tu seras parfait. Pourquoi? Dieu l'a dit. Non seulement il l'a dit, il l'a fait écrire. Il a poussé Paul à l'écrire. Il a poussé Jean à écrire. Il a poussé Pierre à écrire. Poussé par le Saint-Esprit, des hommes ont écrit de la part de Dieu. Prions le Seigneur. Père céleste, l'apôtre a rendu grâce, voyant ce que tu avais fait en les Philippiens. Et il a reconnu que c'est une œuvre que tu avais commencée toi-même. Nous-mêmes, lorsque nous sommes là, si nous regardons ce que nous étions, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous ne sommes pas encore ce que nous devions être, mais si nous avons été changés, c'est que certainement, tu as commencé quelque chose en nous. Si tu as commencé quelque chose en nous, nous avons cette assurance que tu amèneras cela jusqu'au but, à la perfection. Paul a dit, je n'ai pas encore atteint, je ne suis pas encore, mais je cours. Puissions-nous courir comme lui aussi a couru. Accorde-le, nous, Père. Accorde-le, Père, à nos sœurs. Et surtout, nous n'oublions pas non plus les bien-aimés qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin de connaître la vérité selon ce qui a été dit. À quelques jours, Jean dit, vous petits enfants, vous connaissez la vérité. Et cette vérité nous a affranchis. Nous te remercions. Et notre désir aujourd'hui, nous l'avons déjà souvent chanté, c'est être comme Jésus. Tout au long de notre voyage ici-bas, nous désirons une seule chose, c'est d'être comme lui. Merci Père de nous entendre dans nos prières. Quoi qu'il arrive, dans les difficultés, dans les moments de réjouissance, toutes ces choses, notre désir ne change pas. Nous voulons être comme lui. Dis-nous, à cause de ta bonté, sois-nous miséricordieux. Bénis tes enfants, sois et accompagne chacun dans sa maison. Te remercions de la réunion que nous avons eue aujourd'hui. Te demandons pour la réunion de prière de vendredi que tu nous assistes. Et tout ce que nous avons eu à faire aujourd'hui, nous te remercions que tu nous aies aidés en ayant été présent. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, soyez sûrs de cela. Vous serez parfait pour le jour du Seigneur.